Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire concernant le diabète. Donc je suis le docteur Radaoui Amina du service d'endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan. Donc cette semaine, nous avons choisi pour thématique la cardiomyopathie ischémique silencieuse chez le patient diabétique et son dépistage. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pendant ce live, j'y répondrai en fin d'émission. Et comme à notre habitude, je vais commencer par répondre aux questions des internautes préalablement posées sur notre page Facebook. Quelques mots également sur la cardiomyopathie silencieuse et sa définition. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit donc d'une ischémie du muscle cardiaque qui est liée à une atteinte du myocarde du fait d'une mauvaise circulation. Donc vous savez que le muscle cardiaque, comme tous les organes, est alimenté par des artères qu'on appelle les coronaires. Celles-ci peuvent être endommagées ou bouchées et vont provoquer une lésion plus ou moins réversible qu'on appelle l'ischémie. La particularité chez le patient diabétique, c'est que cette ischémie peut être silencieuse, c'est-à-dire que le patient ne va pas présenter de symptômes, ne va pas s'en apercevoir, contrairement au patient lambda qui n'est pas diabétique, qui peut avoir lors de cette ischémie une douleur importante à la poitrine qu'on va appeler langueur ou l'infarctus du myocarde que vous connaissez. Chez nos patients diabétiques, malheureusement, ils ne vont pas avoir de symptômes. C'est pour ça qu'elle est dite asymptomatique ou silencieuse. Donc la difficulté, c'est la prise en charge de ces patients et la perte de chance en termes de pronostic et de prise en charge du fait de l'absence de symptômes. Donc il faut savoir que la prévalence de cette cardiomyopathie ischémique est relativement importante puisqu'elle touche 20 à 30% de nos patients diabétiques, à savoir 2 à 3 patients sur 10, et elle va déterminer le pronostic de nos patients, en sachant également que cela reste la première cause de mortalité chez nos patients diabétiques, toutes les maladies cardiovasculaires et plus précisément l'infarctus du myocarde. Donc il va être important de dépister cette cardiomyopathie ischémique. Alors nous avons eu plusieurs questions à ce sujet, à savoir quels sont les patients les plus à risque, y a-t-il des différences entre les patients diabétiques de type 1 et diabétiques de type 2 ? Alors pour mieux dépister cette cardiomyopathie ischémique silencieuse chez le patient diabétique, les recommandations 2019 de la Société européenne de cardiologie, l'ESC et l'EASD, la Société européenne de diabétologie, ont mis en place des recommandations pour classer, entre guillemets, les patients en 4 stades. Alors, il faut savoir que le patient diabétique n'est jamais considéré à faible risque cardiovasculaire du fait même de son diabète, mais il va pouvoir être classé, entre guillemets, sur 3 stades, à savoir les patients à très haut risque cardiovasculaire, les patients à haut risque cardiovasculaire et les patients à risque modéré. Alors, quels sont les patients considérés à très haut risque cardiovasculaire ? Ce sont ce qu'on appelle les patients en prévention secondaire, des patients diabétiques qui ont déjà présenté, ou non diabétiques d'ailleurs, qui ont déjà présenté un événement cardiovasculaire, un infarctus, un AVC ou une artériopathie des membres inférieurs. On va également retrouver dans ce stade les patients diabétiques qui ont d'ores et déjà une complication, donc ils sont également considérés à très haut risque cardiovasculaire, qu'ils aient une néphropathie diabétique, une neuropathie ou une artériopathie par exemple des membres inférieurs. et les patients ayant au moins 3 autres facteurs de risque cardiovasculaire en plus du diabète, qu'il s'agisse de l'hypertension artérielle, d'une dyslipidémie non contrôlée, d'une hérédité familiale, du tabagisme également actif ou de l'âge. On va également retrouver dans ce stade les diabétiques de type 1 de plus de 20 ans, les patients ayant une insuffisance rénale sévère avec une clairance inférieure à 30 et les patients ayant une hypercholestérolémie familiale avec des facteurs de risque cardiovasculaire ou d'ores et déjà une maladie cardiovasculaire connue. Voilà pour le stade considéré à très haut risque cardiovasculaire. On va également avoir les patients considérés comme haut risque cardiovasculaire, à haut risque. Donc ce sont les diabétiques présentant un autre facteur de risque cardiovasculaire majeur, comme l'hypertension artérielle avec des chiffres au-delà de 180-110 mm de mercure, ou un LDL supérieur à 1,90. Les diabétiques également depuis plus de 10 ans sont considérés comme à haut risque cardiovasculaire, et ceux qui présentent une insuffisance rénale modérée. Enfin, la dernière catégorie de nos patients diabétiques, ça va être le risque modéré. Ce sont tous les autres patients diabétiques qui n'appartiennent pas aux deux premières catégories, notamment les patients diabétiques de type 1 âgés de moins de 35 ans, et les diabétiques de type 2 ayant une maladie évoluant depuis moins de 10 ans. Et sans autre facteur de risque cardiovasculaire. Donc, pour répondre à la question des types 1 et des types 2, donc type 1, moins de 35 ans, on considère qu'ils sont à risque modéré, et type 2, avec moins de 10 ans d'évolution de maladie, sans autre facteur de risque, sont également classés dans ce risque. Alors, la question principale, c'est faut-il dépister de façon systématique tous nos patients diabétiques, étant donné qu'ils sont considérés soit à risque modéré, à haut risque ou à très haut risque, et quels examens réaliser pour ces dépistages? Alors, contrairement aux autres dépistages des maladies, des complications du diabète, que ce soit notamment des micro-angiopathies, les choses sont très bien codifiées. On sait qu'il faut faire un fond d'œil de façon annuelle, une créatinémie, une albuminémie et l'examen des pieds. En revanche, pour ce qui est des maladies cardiovasculaires, des complications macro-angiopathiques, les études sont plutôt controversées et tendent à montrer que le dépistage systématique n'apporte pas de bénéfice, à tous les patients diabétiques. Donc on sait également que ces études ont montré que le traitement médical et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire restent bien plus efficaces en termes de morbimortalité, de survie, que des dépistages de masse systématiques à tous nos patients. Alors, ces études, principalement, on a l'étude DIAD, qui, elle, s'est concentrée plus particulièrement sur les patients considérés à risque modéré. On a également l'étude Dynamite, qui concernait davantage les patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer. Il y a également l'étude DADI, l'étude Factor 64 et l'étude Ischemia, qui est plus récente et qui est très intéressante par rapport au traitement endovasculaire et de la balance bénéfice-risque. Toutes ces études tentent à montrer qu'effectivement, le dépistage de la cardiomyopathie silencieuse ischémique systématique n'apporte pas forcément un bénéfice majeur. Maintenant, les recommandations ne sont pas encore. Il n'existe pas de consensus. On attend impatiemment des recommandations précises. Donc, la SFD, la Société française de diabétologie et la Société française de cardiologie semblent travailler dans ce sens. On devrait donc espérer avoir des recommandations précises. En attendant, que faut-il faire? Il faut rester pragmatique et adapter les prises en charge et le dépistage, c'est-à-dire chaque patient doit être considéré selon son risque cardiovasculaire, son âge et sa situation pour ne pas dépister massivement tous les patients et éviter des dépistages ou des traitements qui peuvent être anxiogènes et inutiles. Donc les patients finalement qui posent problème sont les patients à risque modéré et à haut risque, puisque les patients à très haut risque cardiovasculaire, on va tendance à les dépister assez facilement, on va beaucoup moins se poser de questions. En revanche, pour les patients à risque modéré ou à haut risque, que faut-il faire? Alors il existe de nombreux examens de dépistage. Celui qui présente un intérêt particulier, qui a particulièrement d'ailleurs le vent en poupe en ce moment, pour nous permettre justement d'éviter des examens abusifs, c'est le score calcique. Donc il s'agit d'une simple radiographie des coronaires, hein. C'est un examen qui est facile, qui est peu coûteux et qui est peu invasif. Et il présente l'intérêt de donner un score d'Agatson, pardon, qui va nous permettre de reclasser le risque et de préciser un peu plus le risque cardiovasculaire de notre patient. Donc quand on hésite à faire un dépistage pour des patients à risque modéré, ce score peut être très utile puisqu'il a une valeur prédictive négative et positive intéressante. On sait qu'en dessous d'un score d'Agatson à 10, on est quasi certain de l'absence de lésions coronariennes. On peut considérer notre patient à risque faible et on ne va pas pousser les examens, on peut s'arrêter là. Notamment par exemple pour des patients diabétiques de type 1, qui ont une évolution de la maladie de plus de 10 ans ou qui ont moins de 35 ans, on peut se poser la question, est-il utile de réaliser un test de dépistage fonctionnel? On peut dans ces cas-là faire un score calcique pour prendre une décision un peu plus éclairée et avoir des précisions sur le risque cardiovasculaire du patient. Donc en dessous de 10, on est complètement rassuré. Au-delà de 400, dans le même sens, on sait que le patient est considéré à très haut risque cardiovasculaire, qu'il existe probablement des lésions coronariennes. Donc dans ces cas-là, on n'hésite pas à pousser les examens, à faire un test fonctionnel, voire une coronarographie selon la situation du patient et la discussion avec le cardiologue. Ensuite, les patients entre 10 et 100, qui ont un score d'Agatson avec le score calcique entre 10 et 100, va se poser la question de leur faire un test fonctionnel. On va pondérer là encore selon l'âge et les comorbidités du patient. Et on va choisir de faire un test fonctionnel généralement pour trancher. Alors les tests fonctionnels qui sont considérés aujourd'hui comme performants et pertinents sont trois. Donc on a la scintigraphie myocardique, l'échographie de stress à la dobutamine ou l'IRM de stress également. Il faut savoir que l'épreuve d'effort a totalement été déclassée par les dernières recommandations 2019. Elle est jugée peu pertinente et très opérateur dépendante. Donc on l'utilise de moins en moins. Et quant à l'ECG, il va permettre d'identifier ou de mettre en lumière des lésions déjà installées, mais pour autant c'est un mauvais examen de dépistage. Donc on va privilégier pour les patients qu'on décide de dépister plutôt ces trois tests fonctionnels que je vous ai cités. Maintenant, qu'en est-il du traitement? Alors, de nombreuses questions sur quel traitement paraît le plus efficace une fois qu'on a dépisté ces patients. Donc, toutes les études que je vous ai citées tendent à prouver que le traitement médical reste le plus efficace avec le renforcement des règles gynodiététiques et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on va s'acharner à traiter l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie pour minimiser le risque d'événements cardiovasculaires et le traitement de la cardiomyopathie ischémique silencieuse, d'autant que certains patients diabétiques présentent cette cardiomyopathie silencieuse du fait d'une micro-angiopathie. Donc on n'aura pas forcément de lésions de sténose coronarienne qui sont généralement accessibles à un traitement endovasculaire. Pour les autres patients, en revanche, qui ont des sténoses justement coronariennes et qui provoquent une ischémie dite sévère, on peut envisager, donc là pareil, c'est une discussion avec les cardiologues, un traitement endovasculaire ou un traitement chirurgical par pontage. Ces dépistages systématiques, donc, il faut garder en tête que ces dépistages peuvent vraiment être abusifs et n'améliorent pas forcément le pronostic de nos patients diabétiques. Donc il faut vraiment dépister les patients qu'on juge à risque. L'étude qui me semble intéressante et qui est assez récente, c'est l'étude ISCHEMI qui avait pour objectif donc de comparer deux groupes de patients, tous positifs à un dépistage, dont plus de 50% étaient considérés comme ayant une ischémie sévère ou suspectée d'être sévère. Et on s'est rendu compte qu'en comparant ces deux groupes de patients, dans un groupe traité par coronarographie, donc revascularisation endovasculaire, et l'autre groupe par traitement médical, les résultats ont finalement révélé que l'incidence des événements cardiovasculaires des deux groupes à 3 ans était similaire et que le traitement endovasculaire n'apportait pas forcément de bénéfices à ces patients qui pourtant avaient tous un dépistage positif et dont la moitié était considérée comme sévère. Donc ça va dans le sens de toutes les études qui ont été réalisées jusque-là. Il faut vraiment discuter de ces dépistages et la balance bénéfice-risque n'est clairement pas en faveur donc, d'un dépistage systématique. Au vu de l'absence de bénéfices pour certains patients, il y a également une question de coût et de problématique d'accès aux soins. Malheureusement, dans tous les centres, nous n'avons pas accès aux mêmes plateaux techniques et la même disponibilité aux tests fonctionnels. Et puis les éventuels effets secondaires également d'une revascularisation qui peut finalement être abusive. Donc la priorité doit rester au traitement médical pour les patients diabétiques ayant un risque de cardiomyopathie ischémique silencieuse. Voilà pour répondre aux questions de nos internautes et pour faire un petit point sur l'ensemble de cette question. Je vais maintenant passer à vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions en direct. Bonjour à tous. Monsieur Aller Ben qui pose la question, quels sont donc les signes de cette pathologie ? Alors, à proprement parler, comme il s'agit d'une cardiomyopathie ischémique silencieuse, il n'y a pas de signe. Et c'est donc là toute la difficulté de son dépistage et de sa prise en charge. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début de l'introduction, les patients non diabétiques, quand ils présentent une cardiomyopathie, vont en général avoir une forte douleur à la poitrine. C'est ce qu'on appelle également l'angor et qui peut être un infarctus du myocarde. Les patients diabétiques qui ont cette cardiomyopathie ischémique silencieuse n'ont aucun symptôme et donc on le découvre soit par hasard, soit au décours d'une complication, à savoir une insuffisance cardiaque, puisque le muscle cardiaque est lésé, et on se rend compte qu'il y a eu une ischémie probablement antérieure qui est passée complètement inaperçue puisqu'elle était asymptomatique. Donc voilà pour répondre à votre question. Alors, monsieur Tami, Sifi Ibn Tami, qui me dit cette ischémie peut-elle être réversible si les glycémies sont bien dans les normes? Effectivement, donc l'ischémie peut être plus ou moins réversible. Et comme je viens de vous l'expliquer, le traitement médical, dont fait partie le contrôle du diabète, est essentiel et reste le traitement le plus efficace. Donc on va effectivement, pour espérer une réversibilité de cette ischémie, privilégier le traitement du diabète, de l'hypertension artérielle, le contrôle de la dyslipidémie également. C'est ce qu'on va globalement appeler le traitement médical. Et bien évidemment, je ne le rappelle pas parce que c'était une évidence, les règles génodiététiques vont clairement participer au meilleur contrôle de tous ces facteurs de risque cardiovasculaire. Alors comment on la détecte ? Donc je viens de vous l'évoquer également. On va réaliser des dépistages excusez-moi, pour les patients qu'on juge à très haut risque ou à haut risque, et on va s'aider de certains examens comme le score calcique. Et si on veut pousser les examens et qu'il y a une forte suspicion, on va réaliser un test fonctionnel. Donc je rappelle les trois tests efficaces, jugés pertinents en tout cas par les recommandations 2019, la scintigraphie myocardique, l'IRM et l'échographie à la dobutamine. Donc selon si ces examens montrent la présence d'une ischémie plus ou moins sévère, le cardiologue décidera alors d'aller jusqu'à la coronarographie pour traiter les sténoses coronariennes qui peuvent être à l'origine de cette ischémie. Alors, la Marion qui me pose la question, cette cardiomyopathie peut-elle toucher toutes les tranches d'âge? Alors, elle va plutôt toucher les patients, on va dire, au-delà d'un certain âge, mais c'est pas tant l'âge qui va provoquer cette cardiomyopathie, c'est plutôt le temps d'évolution du diabète, la durée de la maladie, c'est-à-dire qu'on sait que les patients diabétiques dont le diabète évolue depuis plus longtemps, en général au-delà de 10 ans, on considère qu'ils ont plus de risques de présenter une cardiomyopathie ischémique silencieuse ou de maladie cardiovasculaire, donc de macroangiopathie. La durée va être importante, également l'équilibre glycémique. Donc si un patient est déséquilibré sur de très longues années, on sait qu'il va être plus exposé aux complications. Le fait que ce diabète soit associé à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire va davantage l'exposer à des risques de maladies cardiovasculaires. Donc la durée du diabète... l'âge, effectivement, l'hérédité, les autres facteurs de risque cardiovasculaire vont être les facteurs déterminants de la survenue ou non d'une cardiomyopathie ischémique chez ces patients diabétiques. Alors, je vais me concentrer sur les questions sur la thématique. Vous savez qu'on se réunit, on propose ces émissions toutes les semaines. Et pour répondre au mieux à toutes vos questions et rester cohérent, on va privilégier de répondre aux questions sur la thématique. N'hésitez pas à nous poser vos questions aussi tout au long de la semaine sur notre page Facebook lorsque l'on vous précise la thématique pour vendredi. Alors, Madame Kaya qui me pose la question de la place du coroscanner. Alors, le coroscanner associe à la fois une estimation du score calcique, c'est un examen qu'on va dire anatomique, pour le différencier des tests fonctionnels, et donc il va avoir une estimation, une évaluation, on va dire, plus précise des artères coronariennes. Donc ça fait partie des examens de dépistage que les cardiologues apprécient particulièrement puisqu'on va avoir à la fois le score calcique et l'évaluation des coronaires pour voir si on va retrouver des lésions, des sténoses qui peuvent être accessibles à un traitement endovasculaire. Donc ça permet aux cardiologues d'avoir une idée plus précise. Donc effectivement, alors c'est un peu il y a une injection d'iode, donc c'est un peu plus invasif que le simple score calcique. Mais lorsqu'on a un fort doute, avant d'aller à la coronarographie, le cardiologue peut demander un coroscanner. Mais il ne fait pas partie des examens fonctionnels de dépistage. Ça peut être un outil en plus pour préciser ces lésions, mais on va plutôt privilégier dans le dépistage les tests fonctionnels. Diabétique de type 2 depuis 6 ans, donc Madame Béa, âgée de 60 ans, mon endocrinologue ne m'a jamais proposé d'examen cardiaque. Alors comme je le précisais, Madame Béa, peut-être que vous êtes considérée comme une patiente à risque modéré puisque vous avez un diabète évoluant de moins de 10 ans et si vous n'avez pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire associés, il n'est pas forcément judicieux de réaliser un dépistage systématique. C'est tout l'objet de notre émission aujourd'hui. Quand on a un risque modéré, selon votre âge et selon les autres facteurs et les autres comorbidités, il n'est pas forcément judicieux de réaliser un dépistage qui va être peut-être anxiogène et inutile, alors que vous êtes a priori considéré comme à risque modéré. Peut-être chez vous, justement, le score calcique pourrait être intéressant pour une première évaluation et si vous avez un score inférieur à 10, on sera rassuré et ça nous confortera dans le fait qu'il n'y a pas forcément besoin de pousser les examens. En revanche, quand vous atteindrez une évolution de plus de 10 ans de la maladie, il sera peut-être intéressant d'envisager les premiers examens cardiaques. Suzy me pose la question, en tant que diabétique de type 1, doit-elle consulter son cardiologue ou le médecin traitant doit-il l'adresser à un cardiologue en sachant qu'elle présente des signes d'insuffisance cardiaque? Alors, a priori, vos médecins ne sont pas en faveur d'une consultation cardiologique. Donc, comme je vous le disais, Suzy, les diabétiques de type 1 de moins de 35 ans ou n'ayant pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, ayant une évolution de la maladie de moins de 10 ans, ne sont pas considérés à haut risque. Donc cela est très discutable de vous adresser chez le cardiologue. Si vous présentez des symptômes d'insuffisance cardiaque, peut-être faudrait-il discuter effectivement d'une consultation pour en avoir le cœur net. Maintenant, ça dépend des symptômes que vous présentez. Si il s'agit d'un essoufflement qu'on appelle dyspnée ou d'œdème des membres inférieurs, par exemple, c'est des signes classiques d'insuffisance cardiaque, ils peuvent être dus à d'autres raisons. Donc probablement votre médecin traitant et votre endocrinologue estiment que ces signes sont liés à d'autres pathologies. Hein. Les œdèmes des membres inférieurs peuvent parfois être liés à une insuffisance veineuse bénigne. L'essoufflement peut être d'origine autre que cardiaque, hein, il peut être d'origine pulmonaire. Donc peut-être refaites le point avec vos médecins pour préciser ces symptômes, leur origine et discuter de la nécessité de voir un cardiologue ou pas. Mais ce n'est pas forcément, comme je vous l'ai expliqué, en tant que diabétique de type 1, vous n'êtes pas forcément considéré à très haut risque cardiovasculaire. Suzy, toujours qui effectivement est en difficulté par rapport à l'offre de soins, que les médecins généralistes sont peut-être moins expérimentés effectivement pour le diabète de type 1. Et l'accès aux soins avec les endocrinologues et les diabétologues pose effectivement parfois problème, mais ça c'est un problème malheureusement général. Abderrazak Jouini qui nous parle de ses multiples problèmes cardiaques. Alors il a à la fois un pacemaker et il est stenté également. Donc nous on parle effectivement, monsieur Jouini, de la cardiomyopathie ischémique, hein, donc de l'atteinte des coronaires ou de l'ischémie myocardique. Donc effectivement vos stents sont probablement on peut les affilier à cette cardiomyopathie ischémique. En revanche, le pacemaker, c'est des troubles du rythme qui justifient très souvent la mise en place du pacemaker, et cela n'a pas forcément de rapport avec le diabète. Alors, votre question concerne les symptômes de ces problèmes cardiaques. Donc, pour la cardiomyopathie ischémique, ça peut se manifester, comme je vous le disais, par des douleurs, par un essoufflement, une dyspnée, mais elle peut également être totalement asymptomatique. Donc chez un patient comme vous qui a été stenté et qui a des antécédents de cardiomyopathie, donc on appelle en prévention secondaire, le dépistage doit être systématique et annuel au moins. Donc c'est le cardiologue qui donne le rythme de la surveillance et du fait de justement de l'absence de symptômes. Donc il ne faut pas attendre les symptômes dans votre cas, monsieur Jouini, pour réaliser des dépistages. Il en profitera également pour contrôler votre pacemaker et son bon fonctionnement. Alors le rythme, je vois qu'il y a un petit débat sur le rythme des visites, comme je viens de vous le dire, ça dépend des patients, hein. Il faut vraiment, plus on avance, plus les recommandations tendent à personnaliser les prises en charge, hein, pas faire des choses systématiques, adapter chaque prise en charge aux patients. Vous êtes tous différents, vous avez tous des profils et des complications différentes, donc ça paraît très logique de personnaliser les prises en charge. Tous les 3 mois, ça me paraît très abusif. Maintenant, c'est le cardiologue, hein, comme c'est une complication cardiovasculaire, c'est lui qui décide du rythme des visites. Donc effectivement, quand vous avez fait un événement aigu, initialement, il peut demander à vous voir plus fréquemment. Et quand les choses sont stabilisées, on va espacer le suivi. Suzy me pose la question du Jardiance. Hein, le Jardiance, qu'en pensez-vous pour les insuffisances cardiaques? On est très enthousiaste à l'arrivée des inhibiteurs SGLT2, Suzy, et notamment du Jardiance, qui est donc l'empagliflozine. C'est d'ailleurs celui qui a fait l'étude la plus intéressante, dont les résultats en tout cas sont très encourageants, qui est l'EMPA-REG Outcome, et qui ont montré une nette diminution de l'insuffisance, des hospitalisations pour de plus de 30%, hein, des hospitalisations pour des insuffisances cardiaques et de la morbimortalité en général et des complications cardiaques. Nous sommes très très enthousiastes avec les inhibiteurs SGLT2 en général et en particulier avec l'empagliflozine. Et donc c'est des patients des patients présentant des complications cardiovasculaires, notamment ayant une insuffisance cardiaque, qui sont diabétiques. On va clairement mettre en place ces traitements dès que possible, et si la fonction rénale le permet, en sachant que justement ils vont de plus en plus probablement élargir l'indication au vu des bénéfices importants apportés. Alors il faut savoir que sur le diabète, les bénéfices sont intéressants mais pas spectaculaires, avec une réduction de moins d'1% de l'HbA1c. Mais sur c'est vraiment pour l'insuffisance cardiaque et les complications cardiovasculaires que ce médicament semble apporter des bénéfices importants. Farid me pose la question de diabétique hypertendue et sport d'endurance. Je vous encourage, Farid, à poursuivre le sport d'endurance, puisqu'on sait, hein, je vous ai dit, le traitement médical qui comprend les règles gynodiététiques fait partie du traitement le plus considéré comme étant le plus efficace pour le traitement de la cardiomyopathie ischémique et des complications plus générales, des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc le sport diminue très clairement l'hypertension artérielle et a des bénéfices multiples, hein, sur tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc je vous encourage à poursuivre l'endurance. Donc on va arriver au terme de cette live. Je vais choisir une dernière question. Alors on a plusieurs questions sur les intervalles de temps. À quel rythme faut-il faire ces examens, le score calcique ou les dépistages fonctionnels? Là encore, ça dépend du stade auquel vous appartenez, hein, que j'ai cité au début de l'émission. Donc si vous êtes à très haut risque cardiovasculaire, il me paraît judicieux de le faire au moins une fois par an ou au minimum tous les 2 ans. Maintenant, si vous êtes à risque modéré ou à risque à haut risque, c'est là tout l'intérêt de discuter du score calcique, par exemple, pour définir si vraiment et reclasser le stade et savoir si vous êtes à risque et discuter des tests fonctionnels. Donc si le score est inférieur à 10, effectivement, on peut s'arrêter là et cela évite des examens abusifs et inutiles. Pour les patients à très haut risque cardiovasculaire, il n'y a pas de débat, puisque c'est le cardiologue qui va définir souvent, puisqu'ils sont en prévention secondaire pour la plupart. C'est le cardiologue qui va définir le rythme de suivi, et donc c'est au moins une fois par an en général. Pour les autres, je pense que le score calcique est d'une grande aide pour justement éviter ces dépistages systématiques que les études ont plutôt décrié. Voilà. J'espère que cette émission vous a apporté des informations utiles et nous espérons vous retrouver dès la semaine prochaine avec le docteur Mortiniera.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.